Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Bruno Barada, Mélanie Chalandon et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Élise Leu. C'est le dernier volet de notre série sur les forces et faiblesses du Parlement européen à un mois des élections qui renouvelleront les 705 mandats du Parlement auxquels il faut ajouter 15 nouveaux sièges. Nous avons évoqué lundi les enjeux politiques du scrutin, mardi les ingérences étrangères dans l'hémicycle, hier une histoire du Parlement européen et de sa quête de nouvelles prérogatives. Aujourd'hui, la question des droits humains et de l'état de droit, largement investi par l'institution. Droits fondamentaux, les bonnes résolutions des députés.
J'accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du 21e siècle, la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. J'accuse la communauté internationale de consentir à ce crime par son silence et sa passivité.
Monsieur le commissaire, je vous le demande. Restez ferme. Le jour où Orban reconstruira une justice indépendante, autorisera l'organisation d'élections libres et transparentes, arrêtera de détourner les subventions européennes, nous pourrons envisager le dégel des fonds. Mais d'ici là, restez ferme. Merci.
Let's today.
Le prix décerné rend hommage aux femmes, aux hommes et aux jeunes Iraniens courageux. Malgré l'oppression grandissante, ils continuent à œuvrer pour changer les choses. Le Parlement européen vous entend.
Le Parlement européen entend les clameurs du peuple iranien se battant pour ses libertés. Il n'a pas ajusté son oreille au timbre de la souffrance humaine pour pouvoir y rester sourd. Le Parlement européen se targue de se battre pour les droits humains, de faire de ses valeurs un instrument d'influence au service de la paix. Alors certes, ses colères et ses résolutions donnent parfois l'impression d'être sélectives, de se complaire dans les délices de l'indignation libérale. Et quand il se désole des atteintes aux droits de l'homme en Chine, au Venezuela, en Russie, il peut n'avoir pour d'autres qu'une forme de commisération. Dans l'hémicycle, les députés jouent néanmoins depuis des décennies le rôle de lanceurs d'alerte, réclament des explications à ceux qui bafouent les droits fondamentaux, mènent des enquêtes, votent des résolutions, remettent des prix Sakharov, des initiatives qui trouvent plus ou moins un écho selon le degré de dépendance à l'Union européenne de l'État incriminé. Quel expert et quel avocat des droits fondamentaux est devenu le Parlement européen ? Comment choisir Choisit-il ses dossiers prioritaires ? Ce rôle peut-il résister aux éventuels changements de majorité en son sein ? Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Marie-Laure Basilien-Guinche.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit public à l'Université Lyon 3. Vous êtes membre senior de l'Institut universitaire de France, autrice de l'ouvrage « État de droit et état d'exception ». Presse universitaire de France est paru aux presses universitaires de France il y a quelques années. Nous sommes également en studio avec Florent Parmentier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, secrétaire général du CEVIPOF à Sciences Po. Vous êtes chercheur attaché au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors, auteur des « Chemins de l'état de droit » paru aux éditions Presse de Sciences Po. D'abord, pour bien déterminer, pour circonscrire le plus possible ce dont on parle, le Parlement européen a-t-il arrêté une définition des droits fondamentaux pour se donner la possibilité d'agir quand un État ne respecte pas cette définition ? Est-ce qu'il a établi des critères et comment ?
L'État de droit a pour particularité de ne pas être unanimement, de ne pas avoir une définition unanimement partagée par l'ensemble des acteurs. C'est vrai en règle générale, c'est également vrai au niveau européen. Si on regarde les choses, au sein de l'Union européenne, finalement, on a trois types d'acteurs qui vont agir sur les questions d'État de droit avec différents éléments. La Commission, on voit que la DG Valeurs et Transparence a son mot à dire sur les questions d'État de droit. La DG Justice...
DG, c'est Direction Générale.
Direction Générale. La Direction Générale Justice également, et la Direction Générale Élargissement aussi. Donc on voit là que plusieurs acteurs au sein de la Commission peuvent avoir des interprétations qui peuvent être éventuellement divergées.
Alors, il y a des interprétations, mais il y a un texte.
Il y a
la Charte des droits fondamentaux.
Il y a la Charte des droits fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a également la question du Conseil de l'Union européenne où des alliances entre États peuvent de temps en temps interpréter différemment le texte. Et puis, il y a également le Parlement européen où, pour terminer là-dessus, puisque c'est le thème du jour, on a vu comment Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie, a pu essayer de rester aussi longtemps au sein du Parti populaire européen, de manière à éviter, en quelque sorte, de se faire taper sur les doigts sur les questions d'élargissement au titre de l'article 7.
Alors là, vous évoquez en effet une question de droits fondamentaux qui concerne les États de l'Union européenne, puisque la Hongrie en est un État membre. Donc, on peut peut-être répartir cette discussion de deux façons. D'abord, se concentrer sur ce que le Parlement établit comme droits fondamentaux sur lesquels il se déclare compétent pour établir qui respecte l'État de droit et qui ne les respecte pas en son sein. Et en effet, en ce qui concerne la Hongrie, le Fidesz, il y a des implications politiques à prendre en compte nécessairement. Marie-Laure Basilien-Guinche, cette mission de contrôle dont on va parler, qu'a le Parlement, on ne peut pas faire comme s'il était une instance apolitique et impartiale. Est-ce que le Parlement européen est une vigie des droits fondamentaux par nature en tant qu'institution, indépendamment de sa couleur politique?
Alors le Parlement européen, depuis sa création, a vraiment eu, comme l'a dit Antoine Vaucher il y a deux jours, une magistrature morale de protection des droits humains. Et il est vraiment une vigie, un instrument d'alerte, un instrument de surveillance. Et je pense notamment à la commission Libé, Liberté civile, Justice, Affaires intérieures, et à la sous-commission aux droits de l'homme. Et d'ailleurs, il fait un rapport chaque année sur les droits humains dans l'Union européenne. Et pour ce qui concerne la Hongrie, le Parlement européen, dès 2013, a adopté des résolutions pour alerter sur la dégradation de la situation des droits fondamentaux en Hongrie, demandant à ce que soit activé l'article 7, paragraphe 1 du traité de l'Union européenne. Bon, il a fallu beaucoup de temps pour que ça puisse être entendu, et finalement, il y a eu le déclenchement de cet article 7, paragraphe 1, le 12 septembre 2018, mais pour l'heure, on n'a pas eu de sanctions. Mais vraiment, on peut estimer que le Parlement européen exerce cette magistrature morale de veille du respect par les États membres des droits fondamentaux, certainement plus que la Commission ou que le Conseil.
Ils ont fait beaucoup de promesses et oui, ils ont changé quelques lois. Mais nous voulons voir ces changements réellement à l'œuvre. Nous voulons voir la corruption disparaître en Hongrie. Nous voulons voir l'état de droit fonctionner. Oui, il y a des signaux dans la bonne direction de la part du gouvernement hongrois, mais l'évaluation du Parlement est que nous sommes loin de la mise en œuvre complète des 17 mesures.
Le rôle de vigie du Parlement européen en matière de droits fondamentaux, ici le député européen écologiste Daniel Freund, qui résumait en novembre 2022, la position du Parlement au sujet de la Hongrie. Il invitait la Commission européenne à geler les fonds du plan de relance spécifiquement dédiés à la Hongrie, en disant pour l'instant ce pays ne respecte pas les critères que nous avons fixés, que l'Europe a fixés en matière d'état de droit. Ce qui me fait vous reposer cette question, Florent Parmentier, est-ce qu'on peut parler du Parlement européen comme d'une institution qui aujourd'hui se donne ce rôle-là de vigie des droits fondamentaux en le décorrélant de la couleur politique du Parlement, puisque Viktor Orban a longtemps été protégé par ses pairs quand il était encore au sein du Parti populaire européen, la droite européenne?
Eh bien, dans le prolongement de ce qu'avait dit Marie-Laure Basilien-Guinche, on peut se souvenir, par exemple, il y a quelques mois, d'une discussion au Parlement européen qui avait lieu précisément sur le fait de savoir si l'on pouvait garder le rôle de la présidence tournante de l'Union européenne, enfin du Conseil européen, pour la Hongrie, pour Viktor Orban.
Elle doit commencer en juillet prochain.
Elle doit commencer en juillet, et les questions qui étaient posées au Parlement à ce moment-là étaient de se demander si il était légitime de donner les clés de la présidence tournante de l'Union européenne, qui a beaucoup moins de rôle que par le passé, mais néanmoins symboliquement, je pense que là on a un effet vraiment de vigilance du Parlement européen sur ce type de sujet. Donc c'est plus qu'une sensibilité. Ensuite, effectivement, on n'a pas pu donner une suite positive à cette ce questionnement de la part d'une eurodéputée qui n'était en l'occurrence pas du côté du spectre politique de Viktor Orban, mais en tout cas on a quelque chose de ce point de vue-là, oui, qui va dans ce sens-là, avec un autre élément peut-être pour compléter, qui n'est pas totalement anecdotique, qui est la volonté et l'organisation d'un prix spécifique sur les droits de l'homme au Parlement européen, qui est le prix Sakharov, sur lequel on viendra peut-être ultérieurement, mais dont l'idée précisément est de mettre en avant un certain nombre de causes pour les droits de l'homme au niveau international. Mmh. Et donc là, on a aussi à la fois dans les pratiques, dans les décisions qui sont prises, dans le respect du mandat qui est celui du Parlement européen, et également à l'intérieur de l'Europe ou à l'extérieur de l'Europe, cette dimension importante qui est un rôle à la fois de vigilance sur ce point.
Marie-Laure Basilien-Guin, je vous voulais ajouter quelque chose au sujet de la Hongrie avec une question que j'ajoute à votre réflexion. Quand les députés européens votent des résolutions, vous parliez de celle sur la Hongrie, déjà dès l'arrivée au pouvoir du Fidesz dans les années 2010, et à l'époque ils n'avaient pas été écoutés, mais comment les députés choisissent-ils leur combat ? Qui, en général, est à l'initiative d'une résolution ? Et comment choisit-il, encore une fois, son combat, ses combats ?
Alors, peut-être pour revenir sur la Hongrie, et ensuite je répondrai à votre question. Sur la Hongrie, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le Parlement européen s'est emparé de la question du respect des droits humains, des droits fondamentaux en Hongrie, dès 2013, mais que il a poursuivi à s'intéresser à cette question. Alors, avec cette réussite en 2018 d'activation de l'article 7, mais aujourd'hui encore, en 2024, il y a eu une résolution appelant au respect de l'état de droit et des droits fondamentaux en Hongrie. Et puis, très récemment, la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le dégel des fonds européens qui a été décidé par la Commission. Donc, on voit bien que c'est une figie qui utilise tous les éléments possibles. Donc, les éléments de saisine de la Cour de justice, ce qui est relativement rare tout de même, et puis les résolutions qui sont basées sur l'article 144 de son règlement intérieur. Alors, qui décide ? Ça va être généralement à l'initiative d'un député européen qui est particulièrement sensible à une question, ou alors suite à un rapport de la sous-commission aux droits de l'homme ou de la commission Libe, ou bien à ce rapport annuel sur les droits de l'homme dans l'Union européenne qui permet de souligner les plus grosses violations des droits fondamentaux qui ont pu être observés.
Le Parlement européen ne peut pas lancer de procédure d'infraction. C'est la Commission européenne qui le fait, c'est l'article 7 du traité de l'Union européenne. Et la Commission européenne a annoncé justement lundi sa décision de clore la procédure qu'elle avait déclenchée en 2017 à l'encontre cette fois de la Pologne. On est dans un cas de figure assez différent, Florent Parmentier, sur la Pologne, puisque le parti Droit et Justice au pouvoir n'appartient pas à la grande famille du Parti Populaire Européen. Il siège au parti des conservateurs et réformistes, le CR, courtisé néanmoins par le PPE, on en parlait dans l'émission en début de semaine. Cette fois, sur le cas de la Pologne, comment aujourd'hui les eurodéputés se positionnent-ils ? On est là face à un pays qui a changé de majorité. Récemment, Donald Tusk a pris le pouvoir. Il a donné comme priorité, s'est fixé comme priorité, de rétablir l'état de droit démantelé par 8 années de régime illibéral des années Morawiecki. Comment peut-il rétablir le droit sans violer le droit à son tour ? Et là-dessus, comment les parlementaires européens se positionnent pour s'assurer que si la Pologne a changé d'inflexion politique ces derniers temps, elle travaillera dans le respect des droits fondamentaux tels que fixés par les députés ?
Alors, en effet, vous avez raison de mentionner le fait que pendant 8 ans, de 2015 à 2023, la Pologne a été dirigée par le parti Droit et Justice, avec une conséquence essentielle qui est, on a vu peut-être l'illustration de ce que décrivaient Stefan Levitsky et Daniel Ziblatt dans La mort des démocraties, un ouvrage de 2019. En gros, je pense que ce qu'il faut retenir de cet ouvrage, c'est plusieurs choses, mais c'est essentiellement le fait que les démocraties ne meurent pas par des coups d'État, mais meurent plutôt par des formes d'affaiblissement des pouvoirs intermédiaires. Par le fait, tout simplement, qu'on cherche moins à respecter les règles du jeu. La tolérance envers l'opposition est généralement diminuée.
Mais comment s'assurer, par exemple, que Donald Tusk tolérera à son tour l'opposition que formera toujours le Parti Droit et Justice, justement ?
Ça va être un point, notamment la question qui a été posée récemment, et celle de l'audiovisuel public, sur lequel je vais revenir. Mais disons que quelles sont les modalités des dérives autoritaires qu'on a pu déplorer en Pologne entre 2015 et 2023 et depuis 2010, donc en Hongrie. Saper la séparation des pouvoirs, affaiblir les contre-pouvoirs, concentrer le pouvoir entre un nombre limité de mains. C'est les trois éléments importants qu'on trouve dans cet ouvrage. Sur le cas présent de la Pologne, effectivement, Donald Tusk a été un ancien, l'ancien premier ministre de la Pologne, donc il retrouve en quelque sorte une position qu'il a pu occuper par le passé avec un défi qui est celui de se dire, après deux mandats, est-ce qu'on peut revenir à des règles du jeu normales, entendu comme respectant l'état de droit, de manière, sans faire usage de moyens autoritaires, ou est-ce que ce n'est pas possible, à ce moment-là, il faut faire usage de moyens autoritaires. Là, il y a des choses qui ne se décrètent pas. Le degré de polarisation de l'opinion publique, la manière dont le parti Droit et Justice ne souhaitait pas reconnaître sa défaite, puisque le parti Droit et Justice a encore un président de la République qui Monsieur Duda qui est en poste et qui est membre en tout cas affilié
du parti Droit et Justice.
Exactement.
Alors c'est difficile de rentrer dans les détails de tous les cas qu'on va évoquer dans cette discussion où il s'agit vraiment de parler du rôle que se donne le Parlement européen de ce rôle de vigie des droits fondamentaux et d'abord au sein même de l'Union européenne et parmi ses membres. Et là aussi, Marie-Laure Basilien-Guinche se pose la question de savoir pourquoi les députés européens jettent leur dévolu ou se concentrent attentivement sur certains pays et pas d'autres. Et je pense par exemple à la Roumanie, où il a été question l'année dernière d'atteinte à la liberté de la presse, entre autres. Et il me semble que le Parlement européen n'a pas tellement réagi. Roumanie qui est par ailleurs présidée par quelqu'un, Monsieur Ioannis, qui se présente à la tête de l'OTAN. Est-ce qu'on peut en déduire, ou c'est allé trop vite en besogne, que le Parlement européen choisit ses combats aussi en fonction d'affinités politiques, d'intérêts politiques qu'il y a à avoir, de défendre telle ou telle situation ou d'en critiquer d'autres.
Alors le Parlement européen va choisir ses combats généralement en fonction de l'émoi qui se déroule à l'égard, à l'échelle internationale ou à l'échelle européenne. Donc il y a comme une pression au fait de l'opinion publique ou de l'opinion médiatique qui joue sur le choix des cibles de son intérêt sur les droits fondamentaux. C'est vrai qu'il y a eu une grande accentuation sur le cas hongrois, sur le cas polonais, beaucoup moins sur le cas roumain ou sur le cas slovaque. Mais ça dépend aussi du degré de violation des droits fondamentaux qu'on a pu observer. Il était tel en Hongrie et en Pologne qu'on a parlé de démocratie libérale. C'est peut-être moins le cas pour la Roumanie, où là, il y avait une diminution de la liberté d'expression et de la liberté de la presse qui était moindre que celle qu'on avait pu observer dans les deux autres pays.
Alors, si je vous pose cette question aussi du deux poids, deux mesures, c'est que sur certains autres droits fondamentaux, on a aussi l'impression là d'un Parlement qui joue sur deux tableaux, ou en tout cas qui n'arrive pas à trouver sa vraie position. Florent Parmentier, je pense à tout ce qui concerne les droits des femmes. Le Parlement européen a approuvé, c'était fin avril, les toutes premières règles européennes de lutte contre la violence envers les femmes. Alors, des règles qui excluent le viol parce que les États membres n'ont pas réussi à s'entendre sur une définition commune, mais des règles qui luttent contre la violence envers les femmes, qui criminalise les mariages forcés, les mutilations génitales, le cyberharcèlement. Et en même temps, on disait lundi, dans l'émission de lundi, que le groupe PPE était en train de se rapprocher du groupe des conservateurs et réformistes européens dont fait partie Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, qui inquiète beaucoup les femmes avec sa toute première entorse à la liberté d'avorter en permettant aux militants anti-IVG de rentrer dans les centres de prévention. Comment expliquer là encore, comment le Parlement européen peut-il à la fois défendre les droits des femmes et en même temps politiquement se rapprocher de partis qui aujourd'hui inquiètent beaucoup de femmes sur les droits qu'ils leur accordent dans leur politique nationale?
Je pense que le fait qu'il y ait des débats politiques au Parlement est relativement attendu, c'est-à-dire qu'il y ait différents groupes représentant différents intérêts, et dont d'ailleurs les programmes, ce qu'il faut voir, c'est que ces élections européennes mettent en tension plusieurs centaines de partis européens, puisqu'on a 27 États membres qui vont voter, chacun avec un grand nombre de listes. Donc cette complexité fait que parfois, au sein même des différentes familles politiques, on n'a pas, selon les sensibilités nationales, exactement la même définition, effectivement, de questions aussi importantes que celle du viol, ni même des j'allais dire, des pratiques qui sont convergentes en la matière. Donc on a, de ce point de vue-là, les débats qui ont lieu, la manière dont le débat politique prendra forme et les décisions qui seront adoptées seront en quelque sorte le résultat d'un rapport de force politique au Parlement européen que nous allons voir. Mais on voit bien effectivement là-dessus eh bien, que le rôle d'un Parlement est de discuter, de représenter différentes sensibilités et ensuite d'aller vers des décisions qu'on espère le plus libéral possible. Sur la question des valeurs.
Marie-Laure Benzilien-Guinche.
Oui, je trouve que le Parlement européen, qui s'affirme comme une magistrature morale en matière de protection des droits fondamentaux, est dans une situation délicate avec cette montée en puissance du groupe ID, Identité et Démocratie, et du groupe ECR, les conservateurs et réformistes européens. Et ça pose un problème d'équilibre en fonction du positionnement du PPE, du Parti Populaire Européen, avec les deux autres précédents groupes qui n'ont pas la protection des droits fondamentaux dans le cœur de leur ligne de travail. Donc, l'institution se heurte d'abord à son propre équilibre interne, mais elle se heurte aussi aux autres institutions. Par exemple, elle se heurte à la Commission qui peut faire pression sur les décisions qui sont prises au niveau du Parlement européen ou au Conseil qui peut venir affecter les amendements majeurs apportés aux propositions de la Commission qui vont dans le sens d'une protection des droits fondamentaux. Mais parfois, le Parlement est vainqueur et je pense par exemple à la directive sur les lanceurs d'alerte. Le Parlement européen a eu cette initiative de l'initiative. La Commission a accepté de se lancer dans ce chemin législatif et finalement la directive a été adoptée.
Et sur d'autres sujets, quand à chaque fois que le Parlement européen engage un bras de fer, que ce soit la Commission européenne ou avec le Conseil sur des sujets qui lui tiennent à cœur ou qui tiennent à cœur à de nombreux députés, une majorité de députés, quelle place a-t-il eu par exemple et quelle place a-t-il prise sur la conception et l'écriture du dernier pacte sur les migrations et l'asile qui était porté par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, pendant 3 ans et adopté là en avril au Parlement européen. Là, tout ce qui s'est passé, tout le processus qui a abouti au vote de ce texte, de ce pacte sur l'immigration et l'asile, en dit beaucoup, Marie-Laure Benzilien-Guinche, sur le rôle que s'est donné le Parlement et sur les difficultés qu'il a eu aussi à imposer sa voix.
Alors le Parlement européen, il intervient sur une proposition de la Commission qui était une proposition d'un énorme paquet de différents textes normatifs, des règlements et une directive. Et il est intervenu. Alors là, il faut regarder qui sont les rapporteurs. Sur les questions de migration et d'asile, bien sûr, vous n'allez pas avoir le même genre de rapport, le même genre d'amendement si vous avez un rapporteur qui vient de SED, sociaux et démocrates, ou qui vient de ECR, les conservateurs et réformistes européens. Donc vous allez avoir de la promotion des droits fondamentaux des migrants dans le premier cas et une restriction des droits fondamentaux des migrants dans le second cas. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez un moment où pour garantir l'adoption d'un texte sont organisés des trilogues. Les trilogues ne sont pas prévus dans les textes européens. Ce sont en fait des moments de négociation politique entre la Commission, le Conseil et le Parlement. C'est ce qu'on a vu en décembre 2023. Et sur le pacte européen en matière de migration et d'asile, on a bien observé que la pression de la Commission pour faire adopter ce pacte avant les élections de juin 2024 et la résistance des États membres au sein du Conseil a fait que les modestes amendements qui étaient portés par les réformistes libéraux du Parlement européen ont été battu en brèche par la position du Conseil qui n'a pas voulu céder. Donc, il faut bien voir que selon les thématiques, le Parlement européen peut être porteur des droits humains et parfois, il ne l'est pas. Alors, il peut être porteur de droits humains, par exemple, sur la liberté de circulation, sur la protection sociale, sur la protection des données à caractère personnel, mais sur les questions de migration et d'asile, il l'est beaucoup moins.
Et notamment sur sur ces questions-là de migration et d'asile. J'ai appris grâce à vous, Marie-Laure Basilien-Guinche, qu'il existait au sein de l'Union européenne un mécanisme qui s'appelle Jumbo Trilogue. Donc là, ça consiste à négocier d'un coup sur les 10 textes compris, en l'occurrence, dans le pacte sur la migration et l'asile, au lieu de négocier chaque texte individuellement. Et là, les États membres et la Commission ont procédé à une forme de chantage. C'est ce que j'ai cru comprendre, en avançant que si le pacte était rejeté au Parlement, ça aurait pour conséquence de faire voler en éclats tout le principe de la libre circulation au sein du territoire de l'espace Schengen. En tout cas, le Parlement européen est dans un rapport de force nécessairement avec ces deux autres institutions. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, Florent Parmentier, que si le Parlement européen investit autant ces questions de droits fondamentaux et de droits humains aujourd'hui, c'est parce que c'est un peu le seul registre sur lequel on l'a autorisé à prendre autant de place?
Sans doute, puisque les États ont probablement en tête d'autres impératifs, j'allais dire en termes d'intérêt, que la seule question des valeurs. Donc il y a là des arbitrages qui se font. J'ajoute peut-être un élément important pour la prochaine mandature du Parlement européen, qui est qu'à mon sens, sur ces questions de valeurs d'État de droit, jusqu'à présent, un texte au Parlement européen avait davantage de chances de passer dès lors que le Parti socialiste européen et le Parti populaire européen étaient capables de trouver une forme de voie médiane en fonction d'un rapport de force déterminé par le temps de l'élection. Ce que la montée de groupes comme ID et ECR, dont nous venons de parler, peut changer à l'avenir.
Les deux groupes d'extrême droite ou droite radicale.
C'est précisément, effectivement, l'idée selon laquelle, sur certains sujets, probablement le Parti socialiste européen et le Parti populaire européen continueront de donner de là et de trouver des formes de majorité. Sur d'autres sujets, notamment sur les questions des droits, et c'est là où ce qu'on voit aujourd'hui est important, le PPE pourrait être amené à se rapprocher de manière sectorielle, déterminée, avec ces deux principaux partis.
Alors on a évoqué les résolutions qui concernent les États membres entre eux, entre guillemets, ou les directives ou règlements des autres instances mais auxquelles prennent part le Parlement européen, mais qui concernent vraiment les États membres. Maintenant, quand un État patiente pour devenir membre de l'Union européenne, de quel levier dispose le Parlement européen pour imposer, entre guillemets, ses propres critères, son modèle d'État de droit, Florent Parmentier? J'ai cru comprendre qu'il avait ouvert récemment un bureau à Kiev, en Ukraine. Pourquoi? Pour faire quoi?
L'idée essentielle en la matière, effectivement, que ce n'est pas le Parlement européen qui va s'occuper des négociations avec les États candidats à l'Union européenne. Il fait des rapports, il a un rôle en quelque sorte d'aiguillon, mais disons que ce n'est pas dans ses prérogatives. L'idée, en l'occurrence, c'est plutôt pour le Parlement européen d'essayer de faire, de socialiser des partenaires aux problématiques qui sont celles de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen a établi une présence à Kiev. Dans le contexte que nous connaissons, un certain nombre d'acteurs européens essaient finalement de favoriser un maximum d'échanges avec l'Ukraine, de manière à ce que nous n'attendions pas la fin du conflit pour commencer à se rapprocher de l'Ukraine, mais que nous commencions dès à présent. Et c'est un peu l'idée, je pense, qui est importante pour le Parlement européen dans ce cadre bien précis, à savoir assurer une forme de présence, d'influence, avec des parlementaires ukrainiens pour, en quelque sorte, favoriser ce rapprochement des législations qui sera l'essentiel du travail qui est demandé pour un État candidat.
Alors ce n'est pas le cas de tous les États candidats, puisque la Moldavie, que vous connaissez très bien, Florent Parmentier, qui a déposé sa candidature en même temps que l'Ukraine, aujourd'hui, elle reçoit des visites de parlementaires européens, mais il n'y a pas de représentation permanente du Parlement européen aujourd'hui en Moldavie. Quant à la Géorgie, Marie-Laure Basilien-Guinche, qui est elle aussi candidate, dont on entend beaucoup en ce moment les grandes manifestations qui ont lieu pour protester contre cette loi sur les agents de l'étranger que veut faire passer le nouveau gouvernement. Jusqu'où peut peser le Parlement européen sur cette question-là ?
Alors pour revenir sur l'Ukraine une seconde, je pense qu'il était important pour le Parlement européen, après avoir accordé le prix Sakharov au peuple ukrainien pour sa résistance à l'invasion russe, de manifester sa présence sur le terrain à Kiev en étant vraiment présent physiquement. Après, pour ce qui est d'autres pays qui sont candidats, il y a une présence moindre, mais il peut y avoir des résolutions pour aiguillonner en fait les institutions de ces États à s'orienter vers une meilleure protection des droits humains. Alors ça va être dans le sens de l'ouverture des chapitres tels qu'ils sont établis par la Commission, mais c'est aussi dans la même dynamique que ce qui peut se produire à l'égard d'États tiers, où il y a une vigilance, une veille, une prestance du Parlement européen à porter attention aux droits humains et à leurs violations telles qu'ils sont traités par l'actualité internationale. Mmh. Et c'est bien le révélateur des résolutions ou des prix qui sont accordés, le prix Sakharov.
Il s'agit donc de peser pour une politique humaniste, disent les députés, peser sur les États membres, les États tiers, mais aussi sur les entreprises.
So, European companies have the right to exploit children.
Donc, les entreprises européennes ont le droit d'exploiter les enfants, elles ont le droit de détruire les forêts, et surtout, les entreprises européennes ont le droit de ne pas se poser de questions, ni de rendre aucun compte. Ce n'est pas ce que je pense. C'est ce pourquoi Emmanuel Macron, Giorgia Meloni et Christian Lindner se sont battus ces dernières semaines. Si j'ai l'air furieuse, c'est parce que je le suis. Nous avions un accord. Le cynisme de ces derniers jours, l'indécence et l'injustice flagrante des lobbies des entreprises qui disent quoi faire à leurs dirigeants politiques plutôt que l'inverse. Et comme toujours, les victimes de ces entreprises sont ignorées. Le temps est compté.
Une séance au Parlement européen le 28 février dernier. La directive sur le devoir de vigilance des multinationales européennes, tant en matière de droits humains qu'environnementaux, cette directive a finalement été adoptée par le Parlement le 24 avril. Après de longs ajustements, il a fallu consentir à augmenter la taille salariale des entreprises susceptibles d'être inquiétées, par exemple. Et là encore, illustration d'un bras de fer entre le Parlement européen et les États membres, puisque certains États, dont la France, voulaient assouplir cette directive sur le devoir de vigilance des entreprises. Alors, à ce sujet, et la question de, et là on sort de l'Union européenne progressivement, Marie-Laure Basilien-Guinche, de savoir comment l'Union européenne aujourd'hui dit pouvoir lutter, par exemple, contre l'importation de biens issus du travail forcé. Et là, ça rejoint la question du travail des Ouïghours et ce bras de fer qui oppose le Parlement européen à la Chine, pour le dire très vite. Est-ce que là, c'est le Parlement qui obtient de la Commission, qu'elle propose des textes, ou est-ce que c'est le Parlement qui fait avancer quand même la Commission sur certains sujets qui concernent les droits de l'homme et qui force la Commission ou le Conseil à prendre position sur certains sujets?
Alors, en l'espèce, c'est vraiment le combat de Lara Walters, comme c'est très bien montré dans le documentaire intitulé Le Compromis. J'incite vraiment vos éditeurs à le regarder parce que il montre vraiment comment fonctionne la machine du Parlement européen, combien il y a des négociations internes entre les groupes. Et c'est vraiment un travail de 4 ou 5 années qui a été porté par Lara Walters pour lutter contre les violations des droits fondamentaux des personnes dans les États tiers, notamment les Ouïghours.
Elle est néerlandaise. Et membre du Parti travailliste. Non, c'est moi qui l'avais pas rappelé. Je vous en prie.
Et là, on voit bien qu'il y a eu un rôle moteur du Parlement européen en faveur de la protection des droits fondamentaux à l'étranger. Après, la question se pose de savoir comment ce qui a été décidé au Parlement va être reçu par le Conseil, avec des risques d'amoindrissement des avancées qui ont été négociées. Mais bien sûr, là, c'est le rôle de co-législateur qui se pose et qui est toujours délicat. Peut se poser aussi la question de savoir comment va se mettre en œuvre la réalisation des avancées énoncées dans ce texte.
Alors, on peut avancer d'autres résolutions récentes prises par le Parlement européen sur les droits humains. En Azerbaïdjan, par exemple, où est emprisonné entre autres le militant Ilhamis Gouliev et l'économiste Gouba Dibadoglou. Sur la Gambie, qui pourrait autoriser à nouveau les excisions et autres mutilations génitales sur les femmes. Aussi contre la loi sur la sécurité à Hong Kong. Donc, encore une fois, on a l'impression de résolutions tous azimuts, parfois plus ou moins dirigées vers des... vers des États. Alors je précise que le prix Sakharov a déjà été remis à Julian Assange, pour tous ceux qui pourraient quand même penser que le Parlement européen est toujours monolithique dans sa façon d'attribuer les bons et les mauvais points. Mais Florent Parmentier, encore une fois, comment là, sur des questions qui ne concernent pas les États membres, se positionnent les parlementaires européens pour choisir leur combat sur Israël, Palestine par exemple, est-ce qu'ils peuvent contribuer, ces parlementaires, à faire émerger une ligne européenne ?
Sur le cas du conflit israélo-palestinien, très brièvement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a au niveau européen une diversité d'approches, non seulement au niveau des partis, mais au niveau des pays, qui est considérable. On va, pour le dire très rapidement, d'États qui souhaitent la reconnaissance d'un État palestinien. On peut penser à l'Espagne, à l'Irlande, pour lesquels c'était quelque chose en question, jusqu'à des positions en Europe centrale. Je pense notamment à un ancien, enfin non, pas un ancien d'ailleurs, un ministre d'un ministère régalien tchèque qui prenait la parole à la télévision pour expliquer qu'il fallait peut-être sortir de l'ONU si l'ONU continuait de s'attaquer à Israël. Donc on voit qu'entre ces deux positions extrêmes en quelque sorte au niveau européen, eh bien il sera difficile de trouver une ligne médiane. Le Parlement, la logique d'un Parlement, c'est de confronter des points de vue de manière à trouver des solutions d'équilibre. Est-ce que la logique parlementaire s'appliquera ? C'est une question qui est encore ouverte.
Il y a eu dès octobre 2023, le Parlement a adopté une résolution qui tout à la fois condamnait clairement les actes du Hamas, disait le droit d'Israël à se défendre et rappelait ses obligations en matière de guerre, demandait la protection des populations civiles. Donc en effet, chaque résolution est le fruit d'un consensus entre 705 députés jusqu'à présent, 720 bientôt.
Consensus ou d'un compromis, car en l'occurrence on voit bien voilà, qu'il n'y a pas véritablement consensus, mais que c'est le résultat effectivement d'essayer de trouver quelles sont les lignes rouges de chaque côté, de manière à pouvoir faire sortir quelque chose.
Il y a encore un aspect de ce rôle que se donne le Parlement européen pour défendre les droits fondamentaux et les droits humains. En l'occurrence, c'est le fait d'avoir développé toute cette série d'activités d'observation, de missions électorales, le Parlement européen qui se pose en expert de la démocratie. Qui sont les États tiers qui ont recours à ces missions, Florent Parmentier ? Qui sont les États tiers qui se disent on va faire venir l'Union européenne des observateurs de l'UE parce que ça va nous donner peut-être une crédibilité, une légitimité.
Pour le coup, des États candidats, pour lesquels c'est tout à fait bienvenu de pouvoir montrer les progrès en matière d'état de droit, donc en matière de droit électoral, en matière d'application, en matière d'institution. L'Union européenne n'est pas, le Parlement européen n'est pas tout seul à avoir ce type de mission. L'OSCE et d'autres ONG le font assez régulièrement. Mais disons qu'il est assez naturel pour des États qui sont candidats d'un côté et pour le Parlement européen qui doit se positionner sur les droits fondamentaux, que cette rencontre qui se fasse en fait est assez finalement logique.
Alors maintenant, qui sont ceux qui contestent ce rôle du Parlement européen à l'extérieur, qui trouvent que le Parlement européen a ce petit côté donneur de leçons qui peut être parfois agaçant pour certains? Si on parle, il y a en ce moment, Florent Parmentier, quand même une grande remise en cause par, alors il faut dire, les Suds et les Nords, des Nords par les Suds, l'Occident par les pays du Sud. Aujourd'hui, de quelle façon ce rôle du Parlement européen est remis en cause, à moins qu'on trouve qu'il soit trop anecdotique pour passer du temps à le remettre en cause?
Non, je pense que vous avez raison de souligner que le modèle tel qu'il est proposé par l'Union européenne a été probablement le plus attractif dans les années 90-2000 et qu'aujourd'hui ce modèle peut être remis en cause de l'intérieur. Si votre modèle est remis en cause de l'intérieur, notamment en matière d'état de droit, alors il est plus difficilement, il est plus facilement attaquable de l'extérieur, cette fois-ci en dehors de l'Union européenne, ou soit vous voulez vous rapprocher de ce modèle idéal de l'Union européenne, à ce moment-là vous prenez ce type de mission, soit vous vous dites tout simplement finalement, quelle légitimité je donnerais à un acteur extérieur qui serait susceptible de renforcer des contre-pouvoirs. Si vous faites partie d'élites politiques qui ont une obsession de conserver le pouvoir, alors vous allez voir le Parlement européen comme un empêcheur de tourner en rond. D'où la remise en cause qui peut être faite précisément et très souvent au nom du principe du deux poids deux mesures qui fait partie des anciennes qu'on entend régulièrement dès lors qu'il s'agit de critiquer des acteurs comme l'Union européenne.
Et c'est aussi ce double discours qu'on peut entendre dans les pays d'Amérique latine, entre des États qui trouvent que le Parlement européen se mêle un peu trop de ce qui se passe chez eux et des sociétés civiles qui peuvent s'appuyer sur les résolutions du Parlement européen. On en parle juste après cette chanson de U2.
Less you find out as you go. I knew much more than I do now. Neon hot day glow eyes, city lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us.
City of Blinding Lights, c'est un extrait du 11e album paru en 2004 du groupe irlandais How to Dismantle an Atomic Bomb, comment démanteler une bombe atomique. Ça marche d'ailleurs aussi, remarque personnelle, pour les bombes à hydrogène inventées par celui qui a donné son nom pourtant au prix Sakharov, même si c'était un dissident soviétique et qu'à l'époque son action a été largement saluée. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur le Parlement européen, puissance et impuissance d'une institution élue. Aujourd'hui avec nos invités Florent Parmentier et Marie-Laure Basilien-Guinche, les bonnes résolutions des députés sur les droits fondamentaux, illustration en Amérique latine.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Au Venezuela ou au Nicaragua en particulier, le Parlement européen alerte régulièrement à travers ses résolutions sur les atteintes aux droits fondamentaux et sur le sort des populations. Ce faisant, il s'immisce aussi dans la politique de ces États, puisqu'en 2019, et alors que le flou demeurait sur le résultat des élections que le président sortant Nicolas Maduro déclarait avoir remporté au Venezuela, le Parlement européen choisissait son camp en reconnaissant le président autoproclamé Juan Guaido.
Au nom de tout le Venezuela, je remercie le Parlement européen d'avoir reconnu un geste démocratique, un geste pacifique et de respecter notre constitution. Nous avons déjà évoqué la coopération avec l'Europe et la fin du gel de nos avoirs, l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays et bien d'autres choses.
Bonjour Kevin Partenay.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Tours. Vous avez écrit « Crise au pluriel en Amérique latine, les démocraties déracinées 2009-2019 » paru aux éditions Armand Collin. Jusqu'à présent, Kevin Partenay, de quelle façon, sous quel terme, le Parlement européen a-t-il alerté sur la situation des droits de l'homme au Venezuela et au Nicaragua, puisque ce sont les deux pays d'Amérique latine, et vous le rappelez dans votre livre, les plus visés dans ces résolutions?
Oui, tout à fait. Alors, ce sont deux pays qui sont visés parce que ce sont deux pays qui ont connu les fragilisations démocratiques les plus fortes dans les dernières années. Alors comment ils interpellent sur ces situations? C'est essentiellement par les résolutions dont vos intervenants ont parlé pour d'autres contextes et d'autres pays. Des résolutions qui, de manière assez simple, interpellent sur les événements qui ont cours dans ces pays. Donc le durcissement de pratiques autoritaires, violation de droits de l'homme, fragilisation de l'état de droit. Et en l'occurrence, dans ces textes, le Parlement européen a ce pouvoir d'interpellation d'une certaine façon pour alerter sur justement des risques pour les démocraties, autant au Nicaragua qu'au Venezuela, mais c'est aussi vrai pour d'autres pays du continent.
Entre 2014 et 2020, vous écrivez que le Parlement européen a voté 10 résolutions sur le Venezuela, 3 sur le Nicaragua. En 2017, sur le Venezuela, le Parlement européen a acté l'incapacité, je cite, de Nicolas Maduro à mettre fin à l'inflation, à la criminalité, à la pénurie, à la corruption, sans du tout entrer dans le débat, c'est pas le sujet, sur ce qui a causé la plus grave crise économique au Venezuela, s'il s'agit plutôt de la politique de Nicolas Maduro ou des sanctions américaines. Encore une fois, ce n'est pas le sujet, mais est-ce que le Parlement européen, lui, est entré parfois dans ces nuances, à appeler les États-Unis à modérer ces sanctions face au Venezuela ?
Non, pas nécessairement. Il y a une faible intromission, justement, vis-à-vis de grands pouvoirs extérieurs, d'autant plus vis-à-vis des États-Unis, dont on sait que, historiquement, voilà, ils ont une présence importante dans la région. Donc je pense que le Parlement européen et les députés se garderaient bien de dire quoi faire aux États-Unis. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que le Parlement européen agit véritablement comme un point d'alerte, justement. Il met en avant des événements, il alerte sur des situations particulières qui donnent de la visibilité, qui donnent une audience à ce qui est souvent un petit peu obscurci par les gouvernements ou qui est mis sous le tapis par les gouvernements. Et le plus souvent, en des termes très fermes et très durs, je crois que c'est là vraiment la singularité du Parlement européen. Contrairement à d'autres organes, le Conseil ou la Commission, ce qui est assez singulier, et on l'a vu avec une autre collègue aussi en travaillant sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, on voit en Europe qu'il y a plusieurs voix, et le Parlement européen a la plupart du temps une voix extrêmement ferme vis-à-vis justement de dégringolade démocratique. Et ça, je crois que c'est ce qui ressort le plus dans ces interventions. Après, intervenir sur ce que font d'autres États, d'autres puissances étrangères, non, c'est extrêmement rare, voire même à ma connaissance sur ces pays-là, inexistant.
Et est-ce que sur les atteintes aux droits de l'homme en Colombie, dans un passé récent, au Brésil sous Jair Bolsonaro, au Chili sous Sebastián Piñera, des chefs d'État situés de l'autre côté de l'échiquier politique et qui ont pour la plupart bénéficié du soutien des États-Unis et notamment sous Donald Trump, est-ce que là aussi le Parlement européen a déjà eu à se prononcer? Alors il a remis en 2022 le prix Sakharov au processus de paix initié par le nouveau président colombien de gauche. Mais sinon, avant lui, est-ce que l'hémicycle a déjà eu à voter sur ces sujets-là?
Oui, bien sûr. D'autant plus que dans cette relation extrêmement dense qui lie les parlements européens et les parlements latino-américains dans une assemblée aussi interparlementaire, on a, à l'initiative de ces résolutions qui sont très fermes, encore une fois, on a souvent des députés qui appartiennent aux forces socialistes. Historiquement, je ne vais pas revenir sur ce point-là, mais historiquement, il y a une grande proximité entre les forces socialistes européennes et l'Amérique latine. Et en l'occurrence, justement, on a eu des prises de position qui étaient très fermes vis-à-vis de dérives qui sont plutôt du camp conservateur, récemment donc en Amérique latine. Bolsonaro, vous évoquiez le Brésil avec Jair Bolsonaro. Donc ça, c'est tout à fait... Il y a eu des prises de position, effectivement, sur ces différents sujets. Ce qui est intéressant, c'est que le Parlement s'exprime sur à peu près tous les sujets. Précédemment, vous parliez de résolutions tous azimuts. C'est vrai qu'on pourrait peut-être faire ce reproche-là. Il y a beaucoup de résolutions qui interviennent sur une grande diversité de sujets. Malgré tout et malgré ça, je pense qu'il y a ce pouvoir d'interpellation qui reste au demeurant extrêmement important et qui met en avant le symbole justement de la démocratie, ce qui permet ensuite à d'autres institutions ou aux États ou même aux sociétés civiles, et je pense que c'est là le plus important, aux sociétés civiles qui sont impactées par la montée de l'autoritarisme ou les violations de droits de l'homme, de se saisir justement de déclarations par des institutions étrangères et d'en tirer une légitimité pour leur propre combat.
C'est arrivé, vous avez en tête des sociétés civiles en Amérique latine qui se sont saisies d'une résolution du Parlement européen pour continuer la lutte en se sentant peut-être plus protégées, plus légitimées dans cette lutte?
Oui. Oui, bien sûr. Alors, on parlait du Venezuela et du Nicaragua, ce sont justement deux cas emblématiques pour ces sujets-là. Pour relier aussi à un autre élément que vous évoquiez précédemment, le prix Sakharov, c'est un des éléments sur lequel s'est appuyée la société civile vénézuélienne, l'opposition notamment vénézuélienne, qui essayait vraiment de combattre le gouvernement de Maduro pour obtenir des élections libres, transparentes, compétitives. Ils se sont appuyés sur ce prix Sakharov pour dire, bah voilà, la communauté internationale nous reconnaît, il est plus que temps que des élections régulières, entre guillemets, soient organisées. Donc il y a eu un appui. Le Nicaragua, de la même façon, beaucoup de journalistes, par exemple, qui ont dû s'exiler eux-mêmes du pays pour des menaces à leur propre sécurité ou intégrité physique, se sont appuyés sur des résolutions du Parlement pour dire, voilà, la communauté internationale et à travers elle, le Parlement européen, se positionne, prend acte de certaines situations jugé anormal. Et donc, voilà, ils s'appuient sur ces éléments. Il y a une dimension un peu rhétorique, déclaratoire, mais qui est utile pour eux parce que ça leur donne une assise, ça leur donne une légitimité et en plus une visibilité.
Pour conclure, Kevin Partenay, les députés européens se sont aussi manifestés l'année dernière au sujet de Cuba en demandant des sanctions contre le président cubain Miguel Díaz-Canel qui leur a rétorqué qu'il n'avait aucune autorité morale, politique ou juridique pour juger Cuba. Est-ce que ça a eu un effet néanmoins sur les relations entre Cuba et l'Union européenne au sens large, qui signe des accords, enfin qui se sont pas mal tournés vers l'Amérique latine ces derniers temps, comme une sorte de porte de sortie après s'être fait rejeter plus ou moins du Sahel et d'autres régions du monde. Est-ce qu'aujourd'hui le Parlement européen a une incidence sur la politique de l'Union européenne envers les pays d'Amérique latine ?
Je dirais qu'il a un impact marginal dans la mesure où il entoure les politiques, les prises d'initiative justement de ces symboles, de ces déclarations qui entourent les débats, qui peuvent être mobilisés par les acteurs politiques au moment opportun, mais marginal parce que bon, je voudrais évoquer juste un exemple pour illustrer ça. C'est par exemple le cas du Nicaragua récemment, du fait de la dictature qui s'est mise en place très clairement dans le pays depuis quelques années, avait demandé donc au Conseil de ne pas inviter le Nicaragua dans le dernier sommet UE-CELAC. Donc la CELAC est le grand sommet des États latino-américains, communauté des États latino-américains et caribéens, exactement. Donc le Parlement avait demandé au Conseil de ne pas inviter le Nicaragua comme une sorte de sanction un peu informelle, mais il n'en a rien été. Et le Nicaragua a été présent parce que, voilà, fondamentalement, il y a aussi des logiques politiques qui sont derrière ces initiatives. Et c'est là où on peut voir, malgré tout, qu'au-delà de cette dimension un peu déclaratoire, activer le symbole, mettre à l'agenda certaines situations, que politiquement, l'impact a été réduit.
Donner une visibilité par ailleurs à ce qui est obscurci, comme vous le disiez, Kevin Partenay, c'est donc le rôle que se donne le Parlement européen et l'importance que vous teniez tous les trois, me semble-t-il, à souligner à l'échelle internationale de ces actions des députés de l'hémicycle. Merci beaucoup, Kevin Partenay, Crise en Amérique latine et démocratie déracinée, apparu aux éditions Armand Collin, votre dernier ouvrage. Merci beaucoup, Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF Sciences Po, rattaché au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors. Vous avez écrit Chemin de l'état de droit, paru aux éditions Presse de Sciences Po. Et merci beaucoup Laure Basilien-Guinche, professeur de droit public à l'Université Lyon 3. Je signale aussi votre dernier ouvrage, État de droit et état d'exception, paru aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale. C'est avec vous, Laura Dulieu, ce matin. Et à la une, dans la presse internationale, l'Arabie Saoudite continue de construire Neom, sa gigantesque ville futuriste en plein désert, et ce, à n'importe quel prix, manifestement.
Au point d'autoriser le recours au permis de tuer, c'est ce que révèle la BBC qui publie le témoignage d'un ancien officier du renseignement saoudien. Le colonel Rabi Al-Enesi affirme à la chaîne britannique avoir reçu l'ordre d'expulser des villageois pour défricher leurs terres et permettre la construction de The Line, une ville longue de 170 km et qui fait partie du projet Neom. En l'occurrence, il s'agissait de la localité d'Al-Khouirariba, dont les villages étaient principalement peuplés par la tribu Ouaïta, qui habitent la région depuis des générations. Le colonel saoudien, désormais exilé au Royaume-Uni, affirme qu'une ordonnance d'avril 2020 décrète que quiconque continue de résister à l'expulsion devait être tué. Abdul Rahim Al-Waiti était l'un de ces villageois. Il avait refusé l'évaluation de sa propriété par un comité du cadastre. Il avait été abattu par les autorités saoudiennes un jour plus tard lors de la mission de déminage. Si le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman décrivait la zone où Neom est en cours de construction comme une parfaite toile vierge, écrit la BBC, plus de 6000 personnes ont pourtant été déplacées pour le projet selon le gouvernement saoudien. Un chiffre en réalité sans doute bien plus élevé selon une ONG de défense des droits humains en Arabie saoudite.
La BBC publie aussi des images satellites de 3 villages démolis.
Des images avant-après des premières datant de 2018 et les secondes de 2024. Des maisons, des écoles et des hôpitaux, il ne reste strictement plus rien. Au moins 47 villageois ont été arrêtés après avoir résisté aux expulsions, rappelle la BBC. Beaucoup ont été poursuivis pour des accusations liées au terrorisme. Parmi eux, 40 sont toujours en détention, dont 5 dans le couloir de la mort. Or, nombreuses sont les entreprises occidentales et notamment britanniques à être impliquées dans la construction de Neom. En 2022, rappelle la BBC, c'est l'entreprise Solar Water PLC, entreprise de dessalement, qui s'est retirée d'un projet à 100 millions de dollars pour The Line. Selon son PDG, pas foncièrement opposé au principe de construire une région entière au milieu du désert, les habitants locaux doivent être considérés comme un atout précieux. Il faut demander ses conseils, dit-il, pour améliorer, créer, recréer, sans les supprimer.
Au Brésil, à présent Laura, la région de Porto Alegre ne voit pas la fin des inondations.
C'est notre Katrina à nous, notre tsunami, une énorme catastrophe, déclare Fernanda à El País América. Ce que vous voyez à la télévision ne représente même pas la moitié de ce qui se passe, selon cette habitante de Porto Alegre qui n'a pas dormi depuis des jours. Alors que la rivière de la capitale du Rio Grande do Sul, l'état le plus au sud du Brésil, la rivière Guaíba donc, atteint un niveau record de 5,30 m. Le précédent record date de 1941. Il n'avait pas dépassé les 5 mètres. Quasiment toutes les villes de l'État sont touchées, soit près d'1,5 million de personnes, dont 163 000 qui se retrouvent sans abri, comme Adriana Freitas à Porto Alegre.
Preocupada, né? Fácil, né? Perder tudo, né? Fogão, comida.
Je suis inquiète, explique à El País cette mère de famille qui dit avoir tout perdu, meubles, nourriture et les fournitures scolaires de ses enfants avec lesquels elle se réfugie désormais dans les gradins d'un stade. Le bilan ne cesse de s'alourdir. La barre des 100 morts a été franchie hier selon le dernier bilan des autorités. Encore 130 personnes sont portées disparues, mais les opérations de secours ont dû être suspendues à cause de nouvelles fortes pluies. Tous les facteurs sont réunis pour que des volumes d'eau sans précédent soit déversé sur la région, explique le journal brésilien O Globo, qui interroge un météorologue. Il y a le phénomène El Niño, le réchauffement de l'océan Atlantique ou encore des vents venus d'Amazonie, mais aussi et surtout un dôme de chaleur empêchant les nuages chargés de pluie d'avancer vers le nord, explique le spécialiste. De quoi verrouiller l'atmosphère et faire stagner les pluies torrentielles sur le sud du Brésil. Une combinaison d'événements météorologiques exceptionnels dont l'imprévisibilité aurait justement dû amener les autorités à mieux se préparer. C'est ce qu'affirme cette fois dans un éditorial au Globo qui rappelle les inondations de septembre dernier, toujours dans ce même état du Rio Grande do Sul, qui avait fait au moins 50 morts. Il est impossible de prévoir exactement quelles zones seront touchées par ces phénomènes extrêmes de pluie, mais la difficulté de prévoir une tragédie est une raison pour prendre de plus grandes précautions, écrit au Globo. D'autant, poursuit le journal, que ces événements sont devenus et deviendront de plus en plus fréquents et intenses en raison du changement climatique. Le point fondamental, c'est d'éloigner la population des zones les plus vulnérables selon O Globo, comme les pentes et les abords des rivières. Le plan doit être prêt à l'avance, puisque la montée rapide des eaux ne laisse pas le temps à la protection civile de venir aider tous les habitants. Le journal reconnaît les progrès depuis une dizaine d'années, notamment la multiplication des sirènes d'alarme sur les collines quand le niveau de précipitation est trop élevé, mais insiste, les États et les municipalités doivent disposer de cartes de risque et de protocoles prêts à faire face aux situations d'urgence. Le gouvernement fédéral doit s'impliquer. Le président Lula l'a d'ailleurs promis en se rendant à Porto Alegre et El Globo de conclure son édito. Les plans d'urgence ne peuvent pas rester des paroles en l'air.
Merci beaucoup Laura Dulieu. Demain dans Culture Monde, comme chaque vendredi, vous retrouverez Mélanie Chalandon et ses invités avec Marc Semo, notre partenaire du Monde, pour une table ronde d'actualité sur la Géorgie, dont on parlait d'ailleurs dans cette émission. Le gouvernement veut faire passer une loi contre les agents de l'étranger. Les Géorgiens se mobilisent massivement. Une table ronde précédée d'un retour d'Afghanistan sur la radio Begum, montée en Afghanistan, notamment avec des femmes. On en parlera avec la journaliste Solène Chalvon-Fioriti. Dans un instant, les midis de culture. We'll be right back.